6h40 sur France Culture. Comme annoncé, nous évoquons Donald Trump avec vous, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est votre journal des idées. À un peu plus de 2 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, la commission d'investiture républicaine cette semaine a lieu et elle semble dominée par l'ambition personnelle de Trump.
Oui, au point que le parti républicain est devenu une machine placée au service exclusif du président, où la loyauté à l'égard de ce dernier compte plus que les vieux principes comme la discipline budgétaire ou le libre-échange, observe Gilles Paris dans Le Monde. Donald Trump a repris depuis juillet ses points de presse, en principe consacrés à l'épidémie, mais de fait destinés à compenser l'impossibilité de multiplier les meetings de campagne. Et contrairement à l'usage, il envisage de s'exprimer tous les soirs jusqu'au discours d'investiture. Il faut dire que la tâche est ardue, distancié dans les sondages par son adversaire démocrate. Trump est jugé sévèrement par les Américains pour sa gestion de la crise sanitaire. Dans les pages idées du quotidien Le Monde, l'écrivain Douglas Kennedy s'en prend notamment aux positions du président et de ses soutiens les plus fervents à l'égard du masque. Un truc de mauviette. Les vrais bons machos 100% américains n'ont pas besoin d'une protection faciale aussi émasculatrice. Seuls les poltrons efféminés, multiculturalistes et politiquement corrects portent le masque et, ce faisant, renoncent à l'individualisme forcené qui est l'une des pierres angulaires de notre identité nationale. Douglas Kennedy rapporte ce clivage à celui qui oppose depuis des décennies les tenants d'un darwinisme social où l'intérêt personnel est le seul but, assorti au laisser-faire capitaliste, à des conceptions plus solidaires du bien commun. Les États-Unis connaissent depuis 52 ans, écrit-il, une sinistre guerre culturelle qui remonte à l'élection de Nixon en 1968 après une campagne qui avait divisé le pays entre une prétendue majorité silencieuse d'Américains pieux et conservateurs et les progressistes des deux côtés. L'anti-intellectualisme, le fondamentalisme chrétien et la supériorité misogynie de l'homme blanc sont les principes directeurs de cette Amérique profonde, en colère, celle-là même qui a porté Donald Trump au pouvoir. Ce clivage s'illustre également à propos de la discrimination positive, un ensemble de mesures visant à améliorer l'accès à l'université et à l'emploi de membres de groupes considérés comme historiquement désavantagés, comme les Afro-Américains et les Amérindiens. Comme le rappelle dans le Figaro Vox, Paul May, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste du multiculturalisme et qui a enseigné à Harvard, pour ses partisans, la discrimination positive est considérée comme la continuation de la lutte pour les droits civiques. Pour ses contempteurs, elle se fait nécessairement au détriment de personnes plus méritantes. Aujourd'hui, des procès sont intentés contre certaines grandes universités comme Harvard ou Yale au motif des effets pervers de l'affirmative action qui désavantagerait les étudiants d'origine asiatique. La sortie à point nommé d'un rapport du ministère de la Justice qui affirme que les étudiants d'origine asiatique ou blancs auraient entre 4 et 10 fois moins de chances d'être admis à l'université de Yale que les candidats noirs américains vient alimenter la polémique qui ne manquera pas d'être instrumentalisée dans la campagne présidentielle par les partisans de Donald Trump. Car le but des opposants à la discrimination positive n'est pas seulement de l'aménager, mais consiste à la proscrire définitivement par le biais d'une décision de la Cour suprême. Or, les discriminations, quant à elles, demeurent. Dans les pages Idées de Libération, la romancière Lily Brett évoque l'espoir de changement qui naît avec le mouvement Black Lives Matter. Depuis que la vidéo du meurtre de George Floyd a été rendue publique, écrit-elle, ce mouvement a gagné une audience et une puissance inédite. La colère monte au sein d'une grande partie de la population et nous sommes de plus en plus nombreux à prendre enfin la mesure du nombre d'hommes noirs qui ont été assassinés par la police et continuent de l'être. Lily Brett estime que le nombre ne cesse d'augmenter de ceux qui espèrent que la refonte attendue de la santé publique, de l'éducation, des soins infantiles et du système judiciaire pourrait enfin avoir lieu et que nous sommes désormais de par le monde, au-delà des différences, si nombreuses, si nombreux à espérer que le racisme et les discriminations vont enfin diminuer. Mais pour le président Trump, rappelle-t-elle, le mouvement Black Lives Matter n'est qu'un symbole de haine. Ce dimanche encore, un policier de Kenosha dans le Wisconsin a tiré 7 fois dans le dos de Jacob Blake, un Africain-Américain désarmé sous les yeux de ses enfants. Très grièvement blessé, l'homme a été transporté dans un hôpital de Milwaukee où il se trouve depuis entre la vie et la mort.